Ce balado est une présentation de la Table nationale des corporations de développement communautaire.
Je l'appelle affectueusement le département des miracles, parce que ce monde-là fait tout avec presque rien. Améliorer les conditions de vie, atteindre une plus grande justice sociale, c'est pas mal ça, le but du milieu communautaire et des CDC. Je m'appelle Valérie Deschamps, bienvenue à C'est pas du blabla. Allô, Marilyn!
Salut, Valérie! Écoute, on est déjà rendu au dernier épisode.
Ça me fait capoter à quel point le temps passe vite. Pour vrai, c'est fou.
C'est clair. T'en as rencontré du monde.
Oh ouais!
Puis tu vas en rencontrer encore aujourd'hui.
Youpi!
Un des sujets assez chauds encore dans nos actualités, c'est la question de l'inclusion sociale.
Ah ouais, hein, j'avoue.
L'inclusion, que ce soit là, tant au niveau culturel que de l'identité de genre, par exemple. Puis tu sais... On oublie souvent que la participation de tout le monde à notre société, c'est ça qui en fait sa richesse et son unicité.
Clairement, on est riche de notre monde. Hein, t'as-tu vu comment je suis philosophe un matin?
Oui, vraiment. Je vais t'envoyer d'ailleurs philosopher et même voir des réalités plus concrètes. Donc, je t'envoie à rencontrer l'équipe de la CDC Centre-Sud à Montréal, l'équipe de la CDC de l'agglomération de Longueuil et je te laisse terminer ton périple avec la CDC du Haut-Saint-François à East Angus.
Ah, ça va être le fun. Merci, Marilyn. Je pars avec ça, puis je pense qu'on se reparle, nous, tantôt. Hein? Je te rappellerai. En tout cas, va te rappeler, parce que, comme c'est le dernier épisode, faut pas que je te parle avant de finir. Hein?
C'est Estelle Lefebvre-Millette, coordonnatrice au soutien de l'équipe et gestion du personnel à la CDC Centre-Sud, qui nous attend. Elle est en compagnie de Pascal Youn, instigateur du projet dont on va jaser, qui nous reçoivent. On se dirige vers ce qui était appelé jadis le Faubourg à Mélasse. Ça fait référence aux usines de mélasse qui se trouvaient dans ce quartier-là de Montréal. Et les plus vieux se souviendront de l'odeur. On appelle aussi ce coin-là le bas de la ville, mais son nom officiel du quartier, ben, c'est Centre-Sud.
Il faut comprendre que le quartier Centre-Sud a une identité et une histoire ouvrière, ce qui a fait place à l'émergence du mouvement communautaire dans le quartier, qui aujourd'hui est assez fort et présent, merci.
Mais les enjeux, proprement dit, de Centre-Sud, ça ressemble à quoi?
Je pense qu'il y a, dépendamment à qui on s'adresse, les gens vont avoir des lectures plus ou moins différentes où ils vont vouloir mettre en lumière ou en exergue certains enjeux desquels ils sont les plus proches. Je pourrais parler par le biais de la table de développement social, qui est la table de quartier, puisque c'est une instance de concertation qui relie donc, oui, le milieu communautaire, mais également la majorité des secteurs du quartier, donc institutionnels, politiques, privés, etc. Et puis donc, avec la table de quartier, on fait une planification stratégique quinquennale et on vient tout juste de la réactualiser, en fait, au courant de la dernière année. Et puis là, je fais un détour parce que dans cette réactualisation de cette planif, on a demandé au quartier quels sont les enjeux.
Oui, on ne va pas vous les dire. On a besoin de vous, que vous nous le disiez finalement.
Ben oui, exactement. Donc, la première phase, d'ailleurs, de cette actualisation-là, ça a été une phase d'écoute. C'est dit, oui, mais là, si on a un quartier aussi diversifié que le Centre-Sud, c'est faux de penser qu'en faisant un seul événement, on va réunir tout le monde sous le même toit. On le sait, il y a plein de barrières à, justement, à l'inclusion puis à la participation citoyenne. Donc, on a créé un comité d'experts en inclusion. Puis, eux nous ont dit, entre autres, si vous voulez avoir accès aux populations avec lesquelles nous, on est en contact, on ne peut pas penser qu'eux vont venir à vous. Il faut que vous, vous ayez à eux.
Ils se sont donc déplacés un peu partout pour les consulter et connaître les enjeux qui leur parlaient. De ces consultations, en est sorti quatre grands axes: l'alimentation, la mixité sociale, le prix des logements et la gentrification.
Là, il y a plusieurs enjeux qui s'inscrivent dans le quartier. Vous êtes derrière la création d'un projet qui s'appelle Soupe, c'est ça?
Soupe locale.
Soupe locale, mais qui n'a rien à voir avec une vraie soupe.
En fait, plus ou moins, parce qu'on sert de la soupe aux soupes locales, mais ce n'est pas nécessairement des soupes populaires. Là. Souvent, on fait l'amalgame entre soupe locale, soupe populaire, où on a l'image d'une filée de personnes avec leur petit bol de soupe qui veulent. Mm-hmm. Ce n'est pas du tout ça. Il y a vraiment une question de reprise de pouvoir derrière ça, d'une communauté qui se mobilise, qui s'organise, qui se motive autour de l'implication citoyenne à échelle locale. Mais j'aimerais mieux te passer la parole, Pascal, pour le concept.
Hein. C'est le concept. C'est toi qui as amené ça ici. Là.
Ça vient de yousque, ça. Qu'est-ce que ça mange en hiver, outre de la soupe?
Donc, d'où ça vient? Le concept de soupe, en fait, ça vient de Détroit, la ville de Détroit.
OK.
Puis, par hasard, j'ai voyagé là et je suis allé dans un événement qui s'appelait Soupe. Puis, c'est un événement mensuel qui se passait depuis les 10 dernières années. Et ce concept-là, en fait, c'est tu viens à une soirée, une soupe t'est servie avec une salade, et 4 projets sont présentés à toi en tant que mangeur de soupe.
On mange ou on boit une soupe, là, c'est qu'il y a les deux.
On savoure une soupe.
Ah, j'aime ça!
Et donc, chaque présentateur, présentatrice ont 4 minutes pour présenter leur projet. Et à la fin de la soirée, on vote pour le projet qu'on a le plus aimé ou qu'on veut supporter davantage.
Un peu comme du speed dating devant une soupe, finalement.
Exact.
OK.
Mais devant... Ouais, c'est ça, exact. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, ben à travers la soirée, les gens participent, posent des questions, disent « Ah, ben toi, tu veux créer un genre de bibliothèque d'outils dans le quartier? » Ben moi, j'ai comme plein d'outils que j'utilise pas. En fait, je peux te les donner. Fait que là, ça crée une excuse pour se rencontrer puis savoir qui fait quoi dans le quartier.
Puis collaborer ensemble.
Et collaborer. Et si t'as rien à collaborer, ben au moins, tu sais qu'est-ce qui se passe. Puis t'auras payé un 10$ qui va dans un projet que tu veux voir dans ton quartier, qui va améliorer la vie de quartier.
Puis comme tu le sais, tu peux partager la bonne nouvelle aux autres en même temps.
Exact.
Parce que le bouche à oreille, on sait à quel point c'est important. Là.
Comment c'est puissant. Et surtout que... C'est, étant donné que c'est un événement de quartier, ben c'est nécessairement ça va t'impacter, puis tu vas savoir qui habite dans ton quartier, mm-hmm. Tu vas commencer à reconnaître les gens dans ton quartier. Donc, quand j'ai participé à cet événement-là, je me suis dit « Oh my God, je me sens comme si j'appartenais à Détroit, mais j'étais juste en visite pendant deux semaines. »
Le sentiment d'appartenance est arrivé avec ce moment-là. Là.
Exact. Okay. Et là, je me suis dit « Ben pourquoi on n'a pas ça à Montréal? » Et j'avais googlé où est-ce que ce projet-là avait été exporté dans le monde. Puis ça avait été exporté dans beaucoup de villes du Canada, comme Halifax, Vancouver, 3-4 villes en Ontario. Donc, mais Montréal n'avait pas ça. Okay. Ou le Québec, en général, n'avait pas ça. Je pense que peut-être que c'est un truc de langue. Puis il n'y a pas assez de gens qui vont dans les pays.
Au même titre que le mouvement communautaire comme on a au Québec est unique au monde. Mm-hmm. Au même titre que d'autres ont d'autres façons de procéder. Fait, parlons-nous, c'est la meilleure manière de se partager.
Exact, c'est ça. Plus de connexions, ouais. Plus d'idées qui brassent. Donc, c'est une idée que j'ai rapportée ici.
Comme quoi que l'implication citoyenne, c'est bénéfique pour la société et la communauté.
Bien, moi, ce qui m'intéressait, bon, mon copain, il fait de l'agriculture.
OK.
Fait que je me suis joint à lui. On a loué un terrain à Saint-Basile-le-Grand pendant un été. Ben, pendant deux étés, en fait. Et bon, moi, j'ai voulu commencer à faire de l'agriculture urbaine, là. Tu vois, genre...
J'aime les guillemets. C'est-tu parce que 2-3 tomates, ça va, mais après ça, c'est ça, pas plus loin?
Ben, c'est juste... Ben, j'ai pas étudié là-dedans. Fait que j'étais pas mal très... Et puis, j'en avais jamais fait avant. Fait que mes légumes étaient vraiment moches.
Mais est-ce qu'il était bon?
Ben, il était moyen.
Une soupe, ça paraît pas.
Exact. Ben, c'est exactement ce que je me suis dit.
Ah oui, OK.
Je me suis dit, ben, je peux pas les vendre. J'en ai trop. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec? Puis là, j'ai pensé, ah, à Détroit, eux, ils ont fait ça avec leurs légumes. Ben, m'a faire la même affaire. Fait que j'ai transformé mes légumes en soupe. J'ai invité mes amis à la maison, chez nous. Puis le premier soupe local était dans mon salon.
C'est vrai.
Ouais. Et j'ai dit à mes amis artistes, ben présentez des projets, puis on va donner tout l'argent à vous.
Donc, c'est commencé très micro, finalement, là.
Ouais.
Chez vous, dans ton salon, avec tes chums, ta soupe.
Exact.
Ah ouais, c'est super inspirant.
Ouais, on était 30 au début. Puis là, juste pour tester, voir si ça fonctionnerait. Et ça fonctionnait, les gens ont adoré. Donc, j'ai commencé à le faire de mois en mois. Jusqu'à temps que je me suis dit, bon, c'est le temps d'ouvrir. Donc, j'ai trouvé une salle dans le Mile End. C'est la seule endroit où ils me donnaient une salle gratuite. Et j'ai fait ça pendant un an avec des amis. Donc, à chaque mois, on faisait nos soupes.
Est-ce que chaque personne apportait une fois sa soupe ou c'est tout... T'avais assez de légumes pour faire toutes les soupes pendant un an?
Ben, à un moment donné, l'hiver a frappé. Donc,
ça existe, ça?
C'est ça. Fait que j'ai dû cogner aux portes des épiceries et demander « Est-ce que vous avez des légumes à donner pour cet événement? » Puis, on a eu des dons généreux des épiceries.
Qui ont embarqué dans le projet.
Qui ont embarqué, qui ont dit « Pas de problème, prends 200$ de légumes. » Puis, le Centre-Sud est venu et ils ont vu l'événement. Puis, on dit « On a besoin de ça dans notre quartier. » J'ai arrêté de l'organiser, puis c'était beaucoup d'énergie.
Ah oui, hein?
Et finalement, je suis devenu un
souper.
Un souper. Une personne qui venait au soupe pour profiter de savoir qu'est-ce qui se passe dans le quartier.
Et là, le Centre-Sud est arrivé. Et là, ça répond à plein de situations. Là.
Exactement. Je ramène encore notre fameuse table de développement social, donc l'ancienne planification de la table de quartier. Ce que les résidents, résidentes du quartier ont dit, c'est on veut un lieu où se retrouver. On se connaît de moins en moins dans le quartier. On veut bouger, on veut se mobiliser, mais on veut se connaître aussi, puis on veut avoir des lieux d'échange.
C'est un peu comme si différents. Tous les organismes étaient un peu chacun de son bord, les gens aussi, mais il n'y avait pas de moment où on échange, finalement. Puis ça, c'est nécessaire pour un sentiment d'appartenance, pour aussi un filet social.
Exactement. Puis quelque chose aussi qui est inclusif à tout point de vue, tu sais, qui ne s'adresse pas seulement qu'à un profil de personne en particulier, mais vraiment à tous les résidents résidentes du quartier, peu importe notre histoire, peu importe notre niveau socio-économique, où on habite dans le quartier, c'est quoi notre composition familiale, vraiment quelque chose de très, très, très ouvert. Donc ça, c'était déjà une volonté du quartier Centre-Sud et on était en train de mettre en place en 2018 le Laboratoire populaire d'intelligence collective, le LPIC pour les habitués, qui était justement un espace qu'on voulait dédier à la communauté pour essayer des choses dans le quartier. On a dit aux résidents, résidentes, voilà, on vous offre un lieu, un local, une expertise, un soutien si vous le voulez. On essaie des choses, on se mobilise, on essaie de partir des projets, on go, tu sais, ça vous appartient. Mm-hmm. Et là, le projet de Pascal, donc de soupe et de soupe locale, qu'on a rajouté le local à ce concept-là, est arrivé en plein dans ce momentum. Puis on a dit, ben c'est parfait, c'est exactement les ce genre d'événement. Oui, que ça prend pour venir comme catalyser cette espèce d'effervescence qui commence déjà à prendre vie là, dans le quartier. Et donc, c'est comme ça qu'on a dit, ben go, on part ça.
Depuis, le concept de soupe locale a germé ailleurs au Québec.
Il y en a justement à Saint-Basile. Il y a un organisme communautaire qui a repris le concept. Puis en fait, c'est ça, dans cette phase-ci de soupe locale Centre-Sud, nous, en tant que CDC, on a essayé de... En fait, on passe le projet à un groupe de citoyens. Donc, ça ne sera plus la CDC qui va être en charge de l'organisation. Le but, c'est que ça soit repris par les gens, par les citoyens. Un concept qui appartient à tout le monde, c'est libre de droit. Donc, nous, on met à disposition des quartiers, des gens, des collectivités, tout le matériel qu'on a utilisé, qu'on a développé dans les dernières années pour faciliter l'émergence des soupes locales. On a fait des lancements virtuels, on a fait une trousse soupe locale à emporter qui est disponible gratuitement pour tout le monde. Puis on se met à la disposition des gens là, si jamais ils ont des questions ou ils veulent de l'accompagnement. C'est relativement facile faire une soupe locale, c'est ça qu'on veut dire aussi aux gens. T'sais, idéalement, c'est presque à coût nul parce qu'on se base vraiment sur les ressources de la communauté. On essaie de récolter des dons aussi pour la soupe, pour la cagnotte, pour la salle. Ça prend de l'implication citoyenne, mais c'est sûr. Mais c'est ça aussi la pierre angulaire des soupes locales. Et puis après ça, c'est vraiment... ça s'adapte à l'image des quartiers, ça s'adapte à l'image des collectivités. Fait que l'invitation est lancée. Si les gens sont intéressés par le concept, on est justement là pour répandre la bonne nouvelle puis pour partager cette soupe-là, puis cette soirée qui est vraiment magique. Une des choses, je pense, qui est magique dans les soupes locales, c'est que tout le monde se rencontre enfin dans un seul événement, puis c'est finalement plutôt rare, je pense, qu'on a des occasions oui, multigénérationnelles, donc autant les enfants que les personnes plus âgées, de toute origine, de toute langue, on essaie vraiment de mettre en place un environnement qui est respectueux, puis qui est accueillant, puis qui est chaleureux pour tout le monde. Puis c'est ça aussi qui est beau quand on se rend compte que finalement, ce qui nous relie, c'est le territoire dans lequel on habite, puis on a tellement de choses à partager, puis tellement de choses sur lesquelles connecter, beaucoup plus que des choses qui nous distancient finalement. Puis soupe locale, c'est autour d'une soupe, tout le monde aime la soupe. C'est comme une belle occasion de se rencontrer puis de se mettre ensemble pour transformer nos milieux.
Bon, on va espérer que ça fasse des petits encore et encore et encore à travers le Québec. Pascal, Estelle, merci beaucoup. Énormément. C'était super intéressant.
Merci. Merci à vous autres.
Et on quitte l'île maintenant pour la rive sud. On s'en va à Longueuil. Bon, fait que je viens d'arriver à Longueuil, dans le quartier Le Moine. On dirait une église. On dirait un presbytère où ils sont. C'est vraiment beau.
Valérie, elle est arrivée.
Par ici, Valérie! Allô!
Allô, Marie-Ève!
Oui!
Salut!
Bienvenue!
Hey, merci! On se met-tu dans la véranda?
Oui, on va s'installer dans la véranda parce que...
Parce qu'il fait beau.
Il fait beau, il y a une belle lumière, puis on va pas entendre les collègues qui jasent à côté. Veux-tu un café?
Je dis pas non à un café.
OK! Merci! Je t'amène ça.
Bonjour, Valérie.
Allô? Isabelle.
Oui?
Enchantée, Isabelle.
Enchantée.
Marie-Ève et Isabelle travaillent toutes les deux à la CDC de l'agglomération de Longueuil. Marie-Ève est agente de développement et recherche et Isabelle est coordonnatrice à la formation.
On a eu des vagues d'immigration assez importantes dans les 15 dernières années. Puis on a une très grande proportion de la population qui est soit de première génération d'immigration, tu sais, je pense que c'est 20 % de la population dans l'agglomération. Puis là, ça augmente quand tu vas dans le Vieux-Longueuil et à Brossard. Oui, c'est ça. On a réalisé que dans les écoles primaires, là, je me rappelle pas si c'est le chiffre exact, là, mais quelque chose comme au moins la moitié des élèves étaient issus...
Ce qui est quand même beaucoup. Là.
Ce qui est énorme. Oh, oui. Étaient issus de deuxième ou troisième génération. Fait que là, ça, c'est sans compter ceux de première génération qui débarquaient, dans le fond. Puis que un sur trois, à peu près, de ces élèves-là parlaient même pas le français ou l'anglais à la maison comme langue parlée. T'sais. Fait que là... Ça impose plein d'enjeux, en fait, au niveau de l'accessibilité, que ce soit pour donner des services à des familles dont c'est pas leur langue, mais aussi, tu sais, en termes de vivre ensemble.
Oui, 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 j'avoue, hein.
Puis...
C'est plus difficile de demander une pinte de lait à ton voisin quand t'es pas capable de le demander en français
oui, ou puis bon, anglais, les modèles mentaux, les préjugés. Oui, tu sais, oui. Moi, j'ai grandi à Longueuil. On était majoritairement blancs. Tu sais, je veux dire, c'était à Montréal que je voyais de la diversité, là. Ah, finalement, ils repartent.
Non, je pense que c'est le Ghostbuster, là.
Oh non! OK, faites-vous-en pas, là. On va pas vous faire endurer ce vacarme-là tout le long. Tondeuse et souffleuse à feuilles, ça a l'air que ça fait partie du bruit ambiant en ville quand il fait chaud puis qu'on a les fenêtres ouvertes. Ça va revenir, là, des fois, et je m'en excuse d'avance.
Tout ça pour dire que on s'est rendu compte que, tu sais, en fait, le portrait avait vraiment changé. En plus d'avoir des personnes issues de partout dans le monde qui s'installaient sur la rive sud, bien, il y avait des enjeux au niveau de la pauvreté, de l'accès à l'emploi, puis des inégalités grandissantes.
Une problématique vient jamais seule. Il y a toujours d'autres enjeux qui s'y rattachent.
T'sais, puis des nouveaux enjeux au niveau des relations de genre aussi, parce que là, on arrive avec des modèles culturels différents. Fait que là, les mêmes en centre, dans les centres de femmes, dans les maisons d'hébergement, ils voyaient des nouvelles réalités se présenter. Fait que là, on s'est rendu compte que c'était un enjeu pour la majorité des organismes communautaires qui voyaient la communauté qui desservait changer puis qui arrivait avec des nouvelles problématiques auxquelles ils n'étaient pas habitués. Fait que là, évidemment, il y a une dizaine d'années, là, à la CDC, on a commencé à réfléchir avec les organismes à comment se mettre à niveau, en fait, développer des nouveaux outils d'intervention et tout ça pour être capable d'accompagner ces personnes-là sans qu'elles se sentent soit micro-agressé parce qu'on porte des jugements de valeur, etc., que ce soit pour juste développer, dans le fond, des méthodes d'intervention pour que les gens se sentent inclus, puis bienvenus, puis bien accueillis, puis favoriser l'accessibilité à ces services-là aussi, tu sais.
Et lorsque le financement est arrivé, avoir conscience qu'il y a des gens exclus dans les appels de projets a été le mot lancé à la communauté.
Fait que là, à la CDC, on a vu, bien, on était membre du comité Action Inclusion avec Isabelle, mais les agentes, on s'est dit, comment on pourrait être à l'écoute de cette mise en garde-là, comme on soutient l'étape en développement social. On est venu avec l'idée, Isabelle et moi, de faire un coffre à outils qui répertorierait, dans le fond, l'ensemble de ces différentes approches-là. Puis ça part dans tous les sens. C'est autant l'accessibilité universelle que l'alphabétisation populaire, que l'intersectionnalité, que le développement durable ou et j'en passe.
Ouais, c'est vraiment prendre un pas de recul puis regarder toutes les approches qui favorisent l'inclusion. Toutes ces approches-là, c'est des approches qui sont utilisées dans le milieu communautaire. On est vraiment parti de ce qui se fait dans le milieu communautaire. Ça vient pas de...
Les solutions existent déjà.
Oui, sont déjà mises en place. Puis l'idée, c'était de favoriser l'échange d'expertise. Puis là, bien, ça pouvait aller dans tous les sens. Là, on a fait une formation pour s'approprier, en fait, la boîte à outils. Parce que la CDC, sans être l'expert de aucune de ces approches-là, mais en étant celle qui rassemble, en fait, ces savoirs-là, on s'est dit, bien, il faut favoriser l'appropriation de l'utilisation de ce coffre-là. On s'est rendu compte qu'en les mettant ensemble, l'accessibilité universelle, l'intervention féministe intersectionnelle, l'alphabétisation populaire et autres, bien là, on était capable de faire des projets, en fait, qui avaient un potentiel démultiplicateur de l'inclusion.
C'est vraiment une convergence des enjeux sociaux, mais aussi au sein même des organisations. Prendre un pas de recul avec humilité et voir ce qu'ils peuvent utiliser du coffre à outils et le mettre en place pour mieux rejoindre et aider la population.
Le nœud de la guerre, là, selon nous, c'est qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que souvent les approches EDI, c'est qu'on travaille sur comment on peut faire du recrutement, puis après ça, tu sais, de la gestion RH qui favorise la diversité, machin chouette. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, ils passent à côté de la question des rapports de pouvoir. Puis là, quand tu parles d'humilité, c'est d'être conscient que dans le fond, on porte tout en soi une positionnalité avec, tu sais, différentes dimensions identitaires, mais que c'est pas parce qu'une personne vulnérable a vécu plusieurs situations d'injustice dans sa vie qu'elle peut pas elle-même reproduire une forme d'injustice envers quelqu'un d'autre. Puis souvent, dans le communautaire, on se dit « Ah, tu sais, nous, on travaille pour la justice sociale. On peut pas reproduire des rapports de pouvoir, mais on en fait aussi. On est dans des rapports de pouvoir, tout le monde. » Fait que c'est une invitation aussi, tu sais, le coffre à outils, mais la formation qui vient avec aussi, on part de cette prémisse-là. Dans le fond, on travaille sur l'empathie, on travaille sur le sentiment d'injustice, puis sur notre capacité à se mettre à la place de l'autre, mais aussi à se voir, des fois, dans ces relations de pouvoir-là, puis de savoir... OK, mon pouvoir, est-ce que je l'exerce sur la personne ou je l'exerce avec? Puis là, c'est de les inviter à se dire, hey, tout le monde, on fait toutes des erreurs dans notre vie.
On est des humains.
On peut tous être, à un moment donné, la personne en posture de domination ou de pouvoir. Puis parfois, inconsciemment, on reproduit l'exclusion.
Il y a toujours place à l'amélioration.
Il y a plusieurs couches à ça.
Oui.
Tu sais, la personne, ça peut être dans l'accueil. Mais ça peut être aussi les activités qui sont offertes. Est-ce que ces activités-là, ça a une résonance pour la personne ou pas? L'équipe de travail, les attitudes, mais aussi les personnes. Est-ce que la diversité est représentée dans l'équipe de travail? Qui sont les membres du conseil d'administration? Qui prend les décisions? Il y a toutes ces couches-là. Il y en a plusieurs. Puis c'est intéressant de pouvoir s'arrêter puis s'appuyer sur ce qu'on fait déjà qui va bien. Puis dire, OK, je vais m'appuyer là-dessus puis je vais construire avec les approches de d'autres organismes, des approches que je connais moins bien, mais que je sais que je suis capable d'intégrer parce que c'est la même base. La base, c'est l'inclusion. Moi, je trouve ça vraiment stimulant parce que ce projet-là sur le coffre à outils, les formations, accompagnement, c'est vraiment en évolution. Ça évolue avec nous, dans le fond, avec ce qu'on fait comme apprentissage, ce qu'on découvre comme angle mort. On n'a pas fini. Il faut continuer à le bonifier, le coffre à outils. Il y a toujours d'autres approches super intéressantes, super utiles, qui ont besoin d'être intégrées dans ce coffre à outils-là. Donc, on a du travail pour plusieurs années.
Puis, c'est sûr qu'à terme, moi, j'espère qu'on va pouvoir collaborer avec la table nationale des CDC pour que notre formation puisse être enseignée à d'autres CDC. T'sais, pour qu'on puisse partager partager la formation qu'on a développée pour qu'ils puissent la redonner à leurs membres aussi, tu sais, puis l'idée, c'est que ça reste pas justement à Longueuil.
Merci beaucoup, mesdames, merci.
Merci à toi, ça nous a fait plaisir.
Et là, je me dirige vers la dernière place de cette série de CDC à visiter, en route maintenant vers l'Estrie et East Angus. Visiblement, là, le fait que la CDC du Haut-Saint-François a ses bureaux dans une ancienne gare, ben, ça fait que la porte
Entrée?
Qui donne sur l'extérieur empêche complètement que j'entende quoi que ce soit dehors.
OK, je vais me lever.
Allô?
Salut, Valérie.
Bonjour, salut.
Ginny Mayotte et son frère Martin Mayotte, m'a pas vous faire de cachette, là. Je les connaissais déjà bien avant de les rencontrer dans le cadre du balado.
Puis là, on a plusieurs personnes en vacances. C'est sûr qu'il manque Martin, Monette, on a Edwin également, puis Mélanie qui sont pas là.
Et en plus de Ginny et Martin, il y a la dernière arrivée à la CDC, Naomi McMahon, qui se joint à nous.
On va se diriger vers le lieu où on va jaser?
Oui, on va aller à la salle de conférence, on va passer le téléphone rouge.
C'est le téléphone de la présidente, c'est ça?
Oui, oui, quand on a
le Haut-Saint-François, c'est pas très loin de Sherbrooke. East Angus et sa région ont ses particularités qui leur sont propres. Population anglophone, dévitalisation, faible taux de littératie, ce qui fait que l'éducation populaire, les manières de faire, les communications, tout ça, ça doit être adapté à ces réalités-là. Un des enjeux, c'est l'inclusion des communautés culturelles en ruralité.
Mais c'est ça, c'est comme si... Comme on ne côtoie pas les communautés culturelles, c'est une certaine forme d'ignorance. Je pense pas que les gens sont imminemment là, racistes. Là. Je pense pas que le Haut-Saint-François...
Non, je pense pas.
C'est sûr qu'il y en a. Là.
Oui,
il y en a. Il y en a partout.
Comme partout.
Mais je veux dire, on n'est pas plus particulièrement racistes ici. Par contre, je pense qu'on a moins d'outils. On a moins d'outils pour réduire nos préjugés ou notre manière de s'exprimer qui peuvent brimer l'autre. Je pense qu'on est juste moins outillés, puis ça, bien, nous autres, c'est notre job à nous de faire ça.
Hey Naomi, c'est chez toi, ça. Ouais. Comment tu vis ça?
Bien, c'est sûr que c'est parce que, comme Ginny a dit, oui, c'est comme ça, mais en même temps, c'est comme un peu... Mais pas normal que ce soit comme ça, mais tu sais, on n'est pas exposé à de la diversité culturelle, fait qu'en même temps, de ce côté-là, c'est comprenable à la limite, mais... Ça devrait
ça
pas...
Explique.
Ouais, ça
temps,
l'explique.
Ça explique, mais ça n'excuse pas. Ouais.
Non, ça ouais, n'excuse c'est ça. Pas, c'est ça. Mais ça explique beaucoup de choses.
Oui.
Ouais.
J'imagine que s'afficher en région aussi, c'est une autre histoire.
Bien ça, on l'a fouillé au fur et à mesure des années. Je te dirais que... Ici, on a des groupes communautaires très, très, très progressistes. Là. Ça, tu sais, si notre CDC travaille beaucoup sur les enjeux de discrimination, de lutte au racisme, de promotion de la communauté LGBT, diversité sexuelle, de genre, au niveau aussi du sexisme, sexisme ordinaire, et ainsi de suite, nous, on est vraiment engagés dans ces... Dans ces enjeux-là d'exclusion sociale liée aux multiples discriminations, mais ça vient pas de nulle part. Là. C'est pas Ginny, puis Martin, puis Naomi qui se lèvent le matin.
C'est,
là,
ça,
ça, c'est ça qu'on fait.
Ça vient de nos membres. Là. Puis on a notre centre de femmes, la Pascal, qui est très proactif depuis longtemps là-dedans. La relève,
la Méridienne. Notre maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales font des conférences sur la manière dont ils travaillent l'inclusion des communautés culturelles à l'intérieur de leur maison d'hébergement. Là. On a vraiment des groupes communautaires extrêmement progressistes. Ce qui nous a amené, puis là, c'est là que j'irai avec peut-être un petit peu d'historique. Là. On était à peu près en 2015. Oui, mais c'est en 2015 qu'on avait quelques membres qui commençait à dire bien, il serait peut-être temps qu'on parle de diversité sexuelle et de genre. Moi, ça me préoccupe. Puis là, ça nous restait en tête. Puis c'était quelque chose de différent, je pense, qui commençait à émerger. Puis là, bien, on avait une personne issue de la communauté.
Dans notre équipe, oui.
Dans notre équipe à ce moment-là. Puis on est allé chercher un budget avec le Bureau de lutte à l'homophobie du Québec. Puis on a fait le premier colloque au monde, sur la diversité sexuelle et de genre en ruralité. C'était génial. Puis là, nous, dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est de former, dans le fond, de sensibiliser tous ceux et celles qui interviennent dans notre territoire auprès des autres, afin, tu sais, qu'elles soient capables, c'est généralement des femmes, qu'elles soient capables, ces femmes-là, d'avoir un regard différent et d'avoir une approche différente au niveau de la diversité sexuelle et de genre.
Parce que c'est bien beau en parler dans la communauté, mais faut aussi que celles et ceux qui travaillent à pallier à l'enjeu soient outillés sur les bonnes pratiques. Et évidemment qu'après ça, Ginny et son équipe s'est pas arrêtée là. Ils ont fouillé la question de la ruralité et de la diversité sexuelle et de genre. Ça a donné lieu à un recueil et à un documentaire.
On s'est rendu compte finalement que les gens ils se sentaient très inclus dans la communauté. C'était très positif, le message.
Et ils se sentaient souvent moins bien. Oui, ça nous a surpris.
Ça nous a surpris,
Ça nous a surpris parce que c'était pas l'hypothèse de départ. Mettons que j'ai infirmé mon hypothèse, là.
Mais c'est fun d'être surpris comme ça.
Oui, puis on était très contents parce que ça nous a permis aussi d'aller voir ces gens-là dans leur milieu de vie, dans leur communauté, d'aller rencontrer la... Tu sais, ces gens-là, ils nous parlent de comment la postière sont contents de les voir. Ces gens-là sont très heureux aussi quand ils arrivent à l'épicerie. Puis là, ils parlent aussi, mais quand je m'en vais à Sherbrooke, par exemple, je suis comme moins le goût de pogner la main de mon chum, tu sais. J'ai l'impression que je me fais plus regarder à Sherbrooke que dans la communauté. Ici, dans la communauté, c'était serré, tout le monde se connaît. Puis là, c'était vraiment, ah, OK.
C'est une autre perception.
C'était une autre perception. Puis c'est là qu'on s'est dit, bien, crime, continuons. Mais un des enjeux, c'est que nous, on n'est pas Sherbrooke. Sherbrooke, c'est là que tous les organismes régionaux sont. Ces organismes-là, ils n'ont pas tant de sous pour venir dans nos communautés. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bien, nous, on va s'y intéresser ensemble, puis on va passer par le biais de notre CDC pour s'intéresser aux enjeux de discrimination. Donc, c'est pour pallier le fait que nos autres groupes régionaux, on ne leur donne pas, ils n'ont pas assez de cash.
C'est aussi simple que ça. Le nerf de la guerre. Hein?
Puis ils veulent, puis ils viennent, puis on collabore, on travaille beaucoup avec ces organismes régionaux-là, mais... Dans tous les cas, ce sont des organismes qui n'ont pas nécessairement les moyens de vraiment venir dans chacune des MRC. Il y a 9 MRC en Estrie, là. C'est quand même quelque chose, 9 réalités différentes. Donc, comment est-ce qu'un groupe régional peut réussir s'il y a un budget qui n'est même pas le quart du budget de ma CDC? Là?
C'est donc pour ça que la CDC en a fait son cheval de bataille. S'en est suivi des consultations pour connaître le pouls de la communauté en question afin de bien répondre à leurs préoccupations.
Puis après ça, on s'est intéressé aussi, on a fait un autre colloque sur la diversité culturelle en ruralité. On a fait ça à Whedon. Il y a des archives dans les médias de tout ça, mais il y avait surtout une grosse tempête de neige. Donc, il y a eu comme 80 % des conférenciers et des conférencières qui ne sont pas venus.
À cause de la tempête.
À cause de la tempête de neige.
C'était avant la pandémie, donc on n'était pas si installés pour la
visite. Non, c'est ça. On est en quoi, 2018, c'est ça? Oui, 2018. Ouais, oublie ça, la Whedon, la visioconférence en 2018, c'était plus difficile. mais la part des gens, les participants, les participantes, on devait en avoir 80 % qui sont venus.
Mais quand même!
Quand même, puis là, ce qu'on a fait...
curieux, intéressé,
oui. Puis là, on avait les PowerPoints quand même des conférenciers et des conférencières. Fait qu'on saisit, faites entre nous. On avait un huis clos.
Système D.
C'est ça, on avait un huis clos à l'intérieur d'un bâtiment à Whedon qui était magnifique avec des gens complètement intéressés par la diversité culturelle en ruralité. Ce qui est ressorti de là, par la suite, c'est qu'on s'est mis en place une table de concertation multipartenariale qui incluait plein de gens pour se dire « Hey, là, on bouge, on fait quelque chose de
c'est
plus.
C'est bien beau s'en jaser, mais
faut faire quelque chose.
Okay?
Puis, ben, c'est par la suite qu'on a réussi à, ensemble, collectivement, aller chercher deux gros projets. Un avec le MIFI, qui nous permet justement de faire. C'est comme si on jumelait une municipalité avec une communauté culturelle de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie, et puis ils se font des activités. Puis ça fonctionne. Numéro un, il y avait 200 personnes à Lingwick.
Wow!
Ben, il y a combien d'habitants à Lingwick? Parce qu'il y en a...
450.
Okay. Mais pour vrai, c'est démesuré.
Oui,
là.
C'est proportionnellement, disons ça comme ça.
Exactement. Okay. Puis donc, il y a de multiples activités qui ont lieu partout dans le Haut-Saint-François où est-ce que là, on amène des communautés culturelles. Donc, on développe les compétences interculturelles de notre population. Puis on est suivi aussi avec une chercheuse renommée, là, Michèle Vatilaire aussi, de l'Université de Sherbrooke, qui suit ce qu'on fait actuellement. Puis on le documente, on va en faire un documentaire de ce projet-là pour justement que les gens puissent voir les impacts que ça a quand qu'on... Puis l'objectif, là, c'est pas que les personnes des communautés culturelles viennent s'installer dans l'Haut-Saint-François. On n'est pas dans cette perspective-là. On est dans la perspective de la rencontre avec l'autre.
Parce que tout part de cette rencontre-là avec l'autre. Puis que tout est une question de relations humaines hein, dans la vie, dans la communauté, mais aussi dans les milieux de travail.
Ce qu'on disait tantôt, on a un projet avec Patrimoine Canada qui est au niveau de la lutte au racisme systémique sur le
avec
territoire.
Avec Patrimoine Canada, avec qui Patrimoine Canada. Tu peux m'en dire plus?
Oui, bien, c'est un projet dans lequel, bon, on s'est mis à analyser, dans le fond, les offres d'emploi dans le Haut-Saint-François pour voir est-ce qu'il était vraiment inclusive, autant des femmes, mais surtout des communautés culturelles. Il y en avait une qui était écrite dans la même business, OK? Il y en avait une qui était écrite « Nous avons un principe d'ouverture à la diversité », puis l'autre, c'était pas écrit ça. Il y en avait un qui c'était pour un poste très bien payé, et puis l'autre pour un journalier ou une journalière.
Ouais.
OK? Fait que ça, on l'a vu. Fait que juste ça, déjà en partant, c'est juste deviner lequel avait le bas salaire puis lequel avait le haut salaire. Là.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, ça, c'est le genre de truc qu'on peut voir. Mais qu'est-ce que vraiment une offre d'emploi vraiment inclusive? Bien, nous, on a vraiment travaillé fort à la CDC pour avoir un processus différent. On a travaillé avec Relais Femmes à Montréal. On a pris des formations pour s'assurer que quand nous, on offre un on affiche un emploi, bien que les communautés culturelles, les femmes surtout, appliquent. Parce que nous, il y a quelques années, on affichait des postes, puis j'avais comme 80 % de gars qui appliquaient. Je trouvais ça un peu bizarre. C'est mieux communautaire, 80 % de gars qui appliquent, tu sais.
Ce serait l'inverse.
Tu sais, puis si t'as des bons gars, là, je discrimine pas du tout, mais tu sais, c'est quand même... moi, je viens du milieu féministe, puis je sais que...
les enjeux, tu les connais,
je les connais très bien, les enjeux, tu sais, plus ça... Puis des gens des communautés culturelles, je n'avais pas du tout non plus, puis bien sûr, bon, au niveau de la diversité sexuelle de genre, on pose pas la question, là, c'est pas...
Oui.
Mais je suis pas mal sûre que j'en avais pas beaucoup non plus. Donc, on s'est formés, on a changé nos affichages, maintenant, on fait juste écrire qu'il y a des belles tâches, là, faciles à faire, on n'écrit pas les exigences, les grosses exigences, on s'attend à ce que les gens... Il y a beaucoup de gens qui appliquent.
Ah ouais.
Donc, puis on écrit le principe de diversité. On le dit ici que le bâtiment, il est accessible pour les personnes handicapées. Donc, et puis, quand on distribue l'offre d'emploi, bien, on cible hein, le Conseil LGBT du Québec, tous nos groupes régionaux au niveau de l'inclusion, au niveau de la diversité sexuelle et de genre, et ainsi de suite. Puis on l'envoie aux orientations au travail pour les personnes handicapées. Donc, on fait vraiment un... Et puis, ça a vraiment changé. Là. Maintenant, il y a autant de femmes que d'hommes qui appliquent. Puis on a des biais inconscients.
Mais oui.
Puis là, ça, on se cachera pas, là, je veux dire.
On n'est
pas
toutes,
on n'est pas toutes parfaites.
Non,
là.
Non, c'est ça.
T'sais, puis moi, la première, je ne suis pas parfaite. Là. J'en ai des biais. Là. Fait que, tu sais, pour contrer ça, bien, il faut se donner des outils, des procédures, des manières de faire. Puis ça, on est en train de le faire, puis on essaye d'innover. Puis nous, quand on essaye d'innover sur quelque chose, bien, c'est pour que nos membres aussi innovent sur la même chose. Donc, puis souvent, ça vient aussi de nos membres, fait que c'est comme ça se contamine, là, tout ça. Oui,
ça vient d'un, mais c'est aussi...
C'est ça.
Ça se construit en gang,
oui,
finalement.
Exactement.
La société est appelée à évoluer, se transforme, on le voit, post-pandémie, il y a aussi cette réalité-là. C'est quoi la suite pour votre CDC?
Continuer, en fait. Continuer.
Être à l'affût aussi des nouveaux enjeux qui vont ressortir suite à la pandémie. Là, on parle de racisme, d'inclusion, mais il y a quand même une certaine montée de la droite identitaire et...
Elle est là, puis on dirait qu'on ne veut pas en parler. Hein?
Mais elle est là, puis elle contamine nos régions. Là.
Mm-hmm.
C'est sûr que dans le Haut-Saint-François, on est quand même pas loin de l'Université de Sherbrooke, qu'eux travaillent beaucoup ces enjeux-là. Donc, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il va peut-être falloir s'intéresser à ça dans les prochaines années.
Fait que tu sais, l'inclusion, c'est travailler, oui, d'un point de vue de travailler en éducation populaire.
Oui.
Puis il va y avoir aussi le fait... Bien, il faut réaliser que politiquement, il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans la classe sociale, à la classe politique, et que cet enjeu-là est encore plus politique que juste éducatif. Je pense que c'est pas tout le monde qui réalise le rapport dans une région, contrairement au Grand Centre, de voir comment ça se passe. Puis vous avez des projets qui sont super impliqués, qui sont super engageants. Moi, j'ai juste envie de dire que je vous lève les chapeaux que j'ai pas.
Ouais, disons que ça finit bien cette tournée des régions. Je suis vraiment contente d'avoir découvert l'impact des CDC à travers le Québec. Puis on dirait que je suis déjà nostalgique de tout ça.
Puis Valérie, pas trop fatiguée de la route?
Et honnêtement, là, je reviens avec plein de connaissances. On dirait que j'en sais plus
oui, sur le milieu communautaire, mais sur les CDC, de c'est quoi, pourquoi, puis les enjeux, à quel point c'est pas les mêmes enjeux partout à travers le Québec, c'est incroyable.
Ou c'est les mêmes, mais avec des
réalités différentes. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Là.
Est-ce que ça t'a indigné un peu?
Écoute, je comprends pas qu'il y a certaines affaires qui sont pas réglées en 2023 dans une société développée comme la nôtre. J'ai l'impression que des fois que le gouvernement se désengage de ça, mais une chance que notre monde, avec des idées tout le temps plus hautes les unes que les autres, qui sont comme, ben nous, on reprend le flambeau, mais le gouvernement devrait en faire plus puis arrêter de sous-financer le milieu communautaire. Là. Moi, je le vois, je l'ai vu pendant tout le mois, là, finalement.
Ben oui, puis tu sais... On est les groupes, à chaque jour, je suis fascinée par leur volonté, leur engagement. C'est des gens de cœur.
De la résilience aussi. Ils sont engagés. Ah
ouais. Vraiment. Fait qu'imagine s'il y avait les ressources à la hauteur des besoins. On ferait des choses fantastiques au Québec. Quoi qu'on le fait déjà, mais on pourrait le faire encore mieux dans des meilleures conditions.
Écoute, j'espère juste que le message passe puis que tout le monde continue de travailler, d'imaginer, puis qu'ils savent à quel point ben sont précieux puis précieuses à notre société puis à notre filet social. C'est pas pour rien qu'on vous appelle le département des miracles, finalement.
C'est ça. Et on lâche rien, Valérie.
OK, ben écoute, si jamais il y a d'autres CDC à découvrir, s'il y a d'autres choses à faire...
Je te rappelle?
Ah oui, t'as mon numéro maintenant, puis je te ferai un petit café.
Avec plaisir. Merci Valérie.
À l'animation et à la réalisation, Valérie Deschamps. À la technique, au mixage, à la conception musicale, Dominique Brouillard. Merci à Estelle Lefebvre-Millette, Pascal Youn, Marie-Ève Kemble, Isabelle Pépin, Naomi McMahon, Ginny et Martin Mayotte. Merci à Sylvie-Anne Rault, à Marie-Lyne Audet, au comité promotion et à toute l'équipe de la TNCDC pour l'accompagnement. Le balado C'est pas du blabla est une présentation de la table nationale des CDC.